La chanson de Roland, livre cinquième, La revanche. 1. Charlemagne à Roncevaux. Roland est mort. Dieu a son âme aux cieux. Cependant, Charles arrive à Roncevaux. Là, pas de route ou de petits sentiers. Pas de coin vide ou d'une aune ou d'un pied où l'on ne voit Française et Sarrasin, étendus, morts. Et l'empereur s'écrie « Mon beau neveu, Roland, où êtes-vous? Où sont Turpin et le comte Olivier? Où sont Gérin et son ami Gérier? Où sont Otto, le comte Béranger, Ivor, Yvon, que tant je chérissais, le duc Sanson et le fier Anseïs? Qu'est devenu le Gascon Angelier? Où est le vieux Gérard de Roussillon? Les 12 pères laissés derrière moi, où donc sont-ils? » Hélas, il crie en vain, nul ne répond. Dieu, puissais-je assez gémir d'être arrivé trop tard pour la bataille? Dit Charlemagne. Et, tout désespéré, les yeux en pleurs, il s'arrache la barbe. Ses chevaliers versent aussi des larmes. Ils sont bien mis la terre, évanouis. « C'est grand pitié !» s'écriait le duc Nem. Pas un baron, pas un seul chevalier qui de regret ne pleure amèrement. Ce sont leurs fils, leurs frères, leurs neveux, et des amis, des alliés qu'ils pleurent. Ils sont plusieurs qui tombent tout pâmés. Mais le duc Nem agite en preux très sage, et le premier il dit à l'empereur « Voyez là-bas, sire, à 2 lieues de nous, voyez combien poudroient les grands chemins. Ils sont couverts de hordes sarrasines. Donc chevauchez, vengez notre douleur. » Eh Dieu, dit Charles, ils ne sont que trop loin. Faites-moi droit et rendez-moi l'honneur, grand Dieu du ciel, mort à tous ces païens. De douce France, ils m'ont ravi la fleur. Le roi commande Othon et Guébouin, Thibaut de Reims et le comte Milon. Gardez ce champ, ces vallées et ces monts. Laissez les morts étendus comme ils sont. Qu'aucun lion ou animal quelconque, qu'aucun valet ou écuyer n'y touche, je le défends, qu'il reste respecté, jusqu'à ce que Dieu ici nous ramène. » Eux, pleins d'amour, répondent doucement « Nous le ferons, droit empereur, cher sire, 1000 des leurs demeurent avec eux. » 2. La poursuite. Le vaillant roi fait sonner ses clairons, tous à cheval. La grande armée s'ébranle et va courant sur le dos des païens. Chacun s'empresse à leur faire la chasse. Mais Charles voit que le soir va tomber. Lors de cheval, il descend en un pré. Sur l'herbe verte et prosterné à terre, à jointes mains, il prie le Seigneur Dieu qu'à son soleil pour lui, ils disent « Arrête, que la nuit tarde et que le jour demeure. Voici venir son ange coutumier, qui promptement le rassure en ces termes. Charles, chevauche, et le jour te luira. La fleur de France est morte, Dieu le sait. Du peuple impie tu pourras te venger. » Il dit. Le roi remonte sa selle. Quel grand miracle est fait pour Charlemagne! Le clair soleil immobile s'arrête. Les païens fuient, les Français les poursuivent. Aux vales ténèbres, enfin, ils les atteignent. Et, les poussant jusque sur Saragosse, l'épée au rein, ils les tuent par milliers. Grands sont les coups. Terrible est le massacre. Voies et chemins sont coupés aux païens, quand devant eux paraît le cours de l'Èbre. L'eau est profonde et le courant rapide. Pas de bateau, de barque, de chaland. Les Sarrasins, invoquant Ervagan, sautent dans l'eau. Mais nul salut pour eux. Les mieux armés étant les plus pesants, tout aussitôt coulent au fond du fleuve. D'autres, légers, vont flottant à volo. Chance inutile. Ils boivent tant et tant qu'ils sont noyés dans d'horribles angoisses. Chacun leur dit « Rappelez-vous, Roland. » 3. Le campement et le sommeil prophétique de Charlemagne. Sitôt qu'il voit que les païens sont morts, plusieurs oxys et la plupart noyés, laissant butin très grand au chevalier, le noble roi descend de son cheval, se courbe à terre et dit à Dieu merci. Il se redresse et le soleil se couche. Orsa, dit-il, prenons gîte, c'est l'heure, il est trop tard pour gagner Roncevaux. Puis, nos chevaux sont las et épuisés. Enlevez-leur les selles et les freins, et par ces prés, laissez-les rafraîchir. Chacun répond, sire, vous dites bien. Les chevaliers, campés au bord de l'Èbre, à leurs chevaux ayant ôté leurs selles et détaché les freins d'or de leur tête, les envoient paître au pré, dans l'herbe fraîche. Ils ne sauraient leur donner d'autres soins. Après, bien là, sur la terre, ils s'endorment. Pour cette nuit, on ne fit pas le guet. L'empereur roi s'est couché dans un pré. Voulant rester armé toute la nuit, il a posé sa lance à son chevet, a revêtu son blanc aubert brodé, lacé son aume où reluit l'or gemmé, et ceint l'épée sans pareille, joyeuse, qui, dans sa lame, étincelle de feu, dont 30 fois par jour la couleur change. Nous savons tous l'histoire de la lance qui sur la croix perça notre Seigneur. Grâce à Dieu, le roi en a la pointe. Il la fit mettre au creux du pommeau d'or de son épée, qu'il appelle joyeuse, vu sa bonté et vu ce grand honneur. Les barons francs doivent s'en souvenir, car c'est de là que leur vient leur cri, mon joie. Et nul gens ne peut leur tenir tête. La nuit est claire et la lune au ciel brille. Charles est couché, mais un grand poids au cœur. Il se rappelle Olivier et Roland, puis tous les pères et tant de gens de France, car Roncevaux il a laissé, sanglant. Tel est son deuil qu'il en pleure et sanglote. Et il prie Dieu d'être bon à ses âmes. Mais il est là, car il a tant peiné. Il n'en peut plus, et lui aussi s'endort. Par tous les prés, ce n'est que Jean qui dorme. Pas un cheval ne peut tenir debout. Qui veut de l'herbe, il la broute couchée. Beaucoup a pris qui bien connut la peine. Comme un mortel que la douleur travaille, Charles dormait, lorsque Saint Gabriel, chargé par Dieu de garder l'empereur, et chaque nuit assis à son chevet, lui annonça par un songe sinistre les grands combats apprêtés contre lui. Quel grave avis que cette vision! Charles, levant ses regards vers le ciel, voit se mêler vent, orage, gelée, coups de tonnerre, effroyable tempête. Flammes et feux éclairent la tourmente. Ce grand chaos s'abat sur son armée. Tout aussitôt, il voit le bois des lances, frêne ou pommier, s'allumer et flamber, les boucles d'or des écus s'embraser. Ce n'est qu'épieux qui sont réduits en cendres, aumes, aubert dont l'acier grince et casse, bons chevaliers qui clament leur détresse. Il aperçoit des ours, des léopards, puis des dragons. des givres, des serpents et des griffons assemblés par milliers, monstres d'enfer, qui la gueule béante sur les Français se jettent tous ensemble. Les Français crient « Charlemagne au secours !» Lui, tout dolent et saisi de pitié, y veut aller, mais il est retenu. D'une forêt s'élance un grand lion, très orgueilleux, très méchant, très féroce, qui fond sur Charles et s'acharne. Ils combattent. Chaque lutteur prend l'autre à bras le corps. Lequel l'emporte ou succombe, on ne sait, et l'empereur ne se réveille pas. Un autre songe à celui-là succède. Charles se voit sur un perron, à Aix, tenant un ours par une double chaîne, lorsque 30 ours du côté des Ardennes viennent, parlant tout comme font les hommes. « Rendez-le nous, sire, lui disait-il. Le retenir plus longtemps n'est pas juste. C'est un parent, nous lui devons secours. » Mais du palais, un lévrier accourt. Va sur les ours, assaille le plus fort. Alors a lieu un terrible combat, sur l'herbe verte, à part des autres ours. Charles, témoin de cette belle lutte, ne sait qui est ou vainqueur ou vaincu. Dieu, l'ange de Dieu, montre au baron ces choses. Lui toujours dort, jusqu'à l'aube du jour. 4. Désespoir et fureur à Saragosse. Marsile, en fuite, arrive à Saragosse, met pied à terre auprès d'un olivier, rend son épée, sa cuirasse et son casque, et tout piteux sur le gazon se couche. Plus de main droite, et du bras mutilé le sang vermeil jaillit à grosses gouttes. Il voit ce sang et se pâme d'angoisse. Venue à lui, sa femme, bras immonde, crie, se lamente et pleure amèrement. Ils sont bien là plus de 30 000 hommes, maudissant Charles et maudissant la France. Dans une grotte est Apollon, leur dieu. Tous d'y courir. Ils l'insultent, l'outragent. Quoi, méchant dieu, tu nous fais telle honte? Lui, notre roi, tu le laisses confondre. Pourquoi traiter si mal qui te sert si bien? Et lui ôtant son sceptre et sa couronne, un pilier on le pend par les mains. Puis on l'enlève, on le renverse à terre. Il est foulé, bâtonné, mis en pièces. À terre vagant, on prend son escarboucle. Pour Mahomet, on le jette à la fosse. Chiens et pourceaux l'y piétinent, l'y mordent. Marsile, ayant recouvré connaissance, se fait porter dans sa chambre voûtée, que décoraient maintes inscriptions et maints tableaux peints de 1000 couleurs. Là, tout en pleurs, s'arrachant les cheveux, jetait ses cris la reine Bramimonde. « Ah, Saragosse, aujourd'hui démunie du noble roi qui tue sous sa tutelle. Vraiment, nos dieux ne sont que des félons, eux qui lui ont failli dans la bataille. L'émir nous reste. Ah, il sera un lâche s'il ne combat cette race hardie. Comme ils sont fiers, comme ils bravent la mort. Combien vaillant et combien téméraire leur empereur à la barbe fleurie. Si l'on se bat, il ne s'enfuira point. Pourquoi n'est-il personne qui le tue ? 5. L'arrivée du grand émir. L'empereur Charles aura bientôt bataille. Le grand émir qui siège à Babylone et sous sa loi tient 40 royaumes. Sur ses vaisseaux innombrables arrivent ses baligans, vieillards des temps antiques, le survivant de Virgile et d'Homère. Un jour de mai, le premier jour d'été, il est parti du port d'Alexandrie et a lancé sur mer sa grande armée. il vient en hâte. Oh, que grande est sa flotte, comme elle cingle et vole sur les eaux. Au haut des mâts et sur les longues vergues brillent partout lanternes, escarboucles, jetant au loin une telle lumière que, par la nuit, la mer en est plus belle. Déjà, il touche à la terre d'Espagne. Le vieil émir, sans un moment de halte, quitte la mer, entre dans les eaux douces, laisse derrière et marbrise et marbrouse, remonte l'Èbre avec tous ses navires, illuminés par le feu des fanaux dont les clartés font de la nuit le jour. Et tout au loin, dans la contrée rayonne, navigue à force et touche à Saragosse. Clair est le jour et brillant le soleil quand l'émir sort de son riche vaisseau, suivi de rois, de comtes et de ducs. Sous un laurier au milieu d'une plaine, on met sur l'herbe un tapis de soie blanche et on dépose un beau fauteuil d'ivoire. L'émir s'assied et tous restent debout. « Or ça, dit-il, finissons-en, mes braves, avec le roi qui commande aux Français. J'entends qu'il n'ait licence de manger que si tel est à moi mon bon plaisir. Je le verrai, ou soumis à mes pieds, au raid de mort. » 6. Baligan, Marsile et Bramimonde. Tout ce qu'il dit, Baligan l'exécute. Et pour tout l'or qui reluit sous le ciel, il n'est pas d'homme à lâcher son dessein. Ayant mandé deux de ses chevaliers, l'un Clarifant et l'autre Clarien, « Vous êtes fils, leur dit-il, d'un bon roi, qui volontiers faisait tous mes messages. Partez tous deux, allez à Saragosse dire à Marsile. Un grand secours vous vient. Baligan va guerroyer contre Charles. Si l'empereur ne se jette à ses pieds et ne renie le culte des chrétiens, il y perdra sa couronne et sa vie. Pour vous, venez au camp de Baligan et rendre hommage à votre suzerain. » Sire, bien dit, s'écrièrent les païens. Les deux barons tout aussitôt chevauchent. Ils ont passé 10 portes, 4 ponts, toutes les rues où les bourgeois se tiennent. Quand, parvenus vers le haut de la ville, près du palais, ils entendent des cris. Toute une foule en pleurs se désespère. Ah, malheureux, qu'allons-nous devenir? L'Espagne est donc aux mains de ces Français? Blessé le roi? Mort Gerfaleux le Blond? Les deux seigneurs près du perron descendent et, se tenant par leur riche manteau, l'air très courtois, ils montent au donjon où de Marsile est la chambre voûtée. Que Mahomet, Tervagan, Apollon sauve le roi et conserve la reine. À ce salut, Bramimonde répond. Qu'avez-vous dit? Nos trois dieux sont des lâches. À Roncevaux, ils nous ont laissé battre, et mon mari a perdu sa main droite. C'est ce Roland qui a fait tout le mal. L'Espagne à Charles, hélas, sera soumise. Que devenir, malheureuse, chétive? Que n'ai-je là quelqu'un pour me tuer? Clarien dit, « Dame, ne parlez tant. Voici venir notre puissant émir, qui vaincra Charles, et jusque dans sa France le poursuivra, pour le mettre à ses pieds, demandant grâce ou subissant la mort. »
« Pas tant d'espoir, répondit Bramimonde.
L'empereur Charles est un preux intrépide, et qui mourrait plutôt que de s'enfuir. Devant ce roi qui seul ne craint personne, sont des enfants tous les rois de la terre. » Marsile alors interrompant sa femme. « Laissez cela et ne parlez qu'à moi, bon messager envoyé par l'émir. C'est vrai, je suis en mortelle détresse. Hier soir encore, je possédais un fils. Il est tué. Je n'ai plus d'héritier. Ni fils, ni fille. Informez donc l'émir que, s'il le veut, l'Espagne sera sienne, que seulement il en chasse les Francs. Apportez-lui les clés de Saragosse. Voilà le vrai, dirent les messagers. Qu'il tienne bon, reprit le roi Marsil. Vous lui direz que l'empereur des Francs, qui tant de fois mit à mort mes soldats, prit mes cités et dévasta mes terres, est maintenant sur les rives de l'Èbre. J'ai bien compté, ils ne sont qu'à 7 lieues, que Baligant mène là son armée
et se prépare à leur livrer bataille.
Les messagers très humblement s'inclinent, puis, chevauchant, ils rejoignent l'émir. Sire, voici les clés de Saragosse. Baligant dit : Que se passe-t-il donc ? Où est le roi qu'ici j'avais mandé ? Clarien répond : Il est navré à mort, on l'a vaincu. Avec sa Durandal, le père Roland a tranché son poing droit, tué son fils qu'il aimait chèrement, battu l'épreux qui lui faisait escorte. Il a dû fuir, et tous ses chevaliers que poursuivaient Charlemagne et son monde sont ou tués ou bien noyés dans l'Èbre.
Quant aux Français, ils campent sur la rive, tout près d'ici,
à 7 lieues de la ville. Le fier émir devient pensif et sombre.
Sombre et pensif est devenu l'émir, mais son orgueil surmonte sa douleur. Il se redresse. Allons, pas de retard, tous à cheval. Je vengerai Marsile, tête pour main. L'empereur périra.
Baligant met en branle tout son monde, dont il confie le soin à Gémalfin, fait amener son coursier au poil brun, et chevauchant arrive à Saragosse. 4 seigneurs lui tiennent l'étrier, et il descend sur un perron de marbre. À peine est-il vers le haut du palais que Bramimonde à ses devants s'élance. Sire, dit-elle, ayez pitié de nous, honte et malheur, mon seigneur est perdu. Et elle tombe aux pieds de Baligant. Il la relève, ils sont tous deux émus et vont dolents trouver le roi Marsile. Le pauvre roi, dès qu'il voit Baligant, se fait dresser à bras sur son séant. Après, prenant un gant de sa main gauche, « Émir, dit-il, à vous toute ma terre, j'ai tout perdu, et moi-même, et mon peuple. » Répond, « Ma douleur en est grande, mais je ne puis plus longtemps vous parler, car, je le sais, Charles n'attendrait pas. C'est entendu, j'accepte votre gant. » Et tout en pleurs, tant son cœur est en deuil, l'émir descend les degrés du palais, court au galop rejoindre son armée, puis part, criant « En avant, suce au franc !»
7. Le grand deuil de Charlemagne et les honneurs rendus aux morts de Roncevaux. Pourtant, à l'heure où luit la première aube, l'empereur Charles est sorti du sommeil. Saint Gabriel, son gardien de par Dieu, a fait sur lui le signe de la croix. Le roi se lève et laisse là ses armes. Ses chevaliers se désarment aussi, et, dévorant la route longue et large, tous les Français à grand hâte chevauchent. Ils vont là-bas où tombèrent les preux, à Roncevaux, voir l'immense désastre. À Roncevaux, le roi est revenu. Partout des morts. Il commence à pleurer et dit aux Francs : Ralentissez le pas, car c'est à moi d'aller seul en avant, pour mon neveu que je voudrais trouver. Un jour à Aix, jour de fête annuelle, c'était Noël, Pâques ou la Pentecôte, mes vaillants preux se vantaient à l'envi de grands combats, de terribles assauts. Voici comment jouit par les Roland. Moi, si je meurs en pays étranger, j'aurai laissé mes pères derrière moi, et finirai ainsi qu'un conquérant, premier de tous,
et face à l'ennemi. Brave Roland. Et, prenant les devants, si loin que porte un bâtonnet qu'on jette, l'empereur roi gravit une colline. L'empereur va, cherchant s'il voit Roland, et par les prés trouve fleurs et gazons, tout empourpré du sang de nos barons. Pris de pitié, il pleure à chaudes larmes, mais le voilà tout en haut, sous deux arbres. Il reconnaît les coups de Durandal qui, sur le roc, a fait trois grandes brèches, et voit Roland qui gît sur l'herbe verte. Il est navré. Fut-il douleur plus juste? Mais pied à terre et court sans s'arrêter, entre ses bras prendre ce pauvre corps. Puis, tout dolent, il tombe évanoui. Charles pourtant retrouve connaissance. N'aime le duc et le comte Asselin, Geoffroy d'Anjou et son frère Thierry, prenant le roi le dresse contre un pin. Mais lui, les yeux à terre où gît Roland, bien doucement se prend à le pleurer. Ami Roland, Dieu t'ait en sa merci. Jamais ne fut sur terre un chevalier qui fit si bien dans les grandes batailles. Ah, mon honneur tourne vers son déclin. Et, de rechef, Charles s'évanouit. Quand l'empereur retrouve connaissance, ses quatre preux de leurs mains le soutiennent. Les yeux à terre, il y voit son neveu, dont le corps gît, gaillard mais sans couleur. Ses yeux tournés sont tout enténébrés. Charles le plaint par foi et par amour. Dieu mette, ami, ton âme dans les fleurs, au paradis, parmi les glorieux. Combien à tort tu vins ici, Seigneur. Ah, chaque jour je pleurerai sur toi. Morte est ma force, et morte est ma grandeur. Qui désormais soutiendra mon honneur? Non, je n'ai plus d'amis, plus un seul. J'ai des parents, mais pas un qui te vaille. Et il s'arrache à deux mains les cheveux. 100 000 francs en ont douleur si grande qu'il n'en est pas un qui ne verse des pleurs. Ami Roland, je vais rentrer en France. Quand je serai dans ma ville de Laon, d'ici, de là viendront des étrangers demandant tous « Où est le vaillant preux ?» Je leur dirai « Il est mort en Espagne, et grand sera le poids de ma douleur. » Oui, désormais, chaque jour de mon règne sera un jour de plaintes et de larmes. Ami Roland, vrai preux, belle jeunesse, quand je serai à ma chapelle d'Aix, des gens viendront quérir de tes nouvelles. Je les dirai, étranges et cruels. Mort, il est mort, l'homme aux mille conquêtes. Ah, maintenant révoltez-vous, Saxons, gens de Hongrie et gens de Bulgarie, peuple de Rome ou Palerme ou la Pouille, païens d'Afrique et de Californie. Mon deuil, mes maux vont chaque jour s'accroître. Qui conduira mes armées au triomphe quand meurt celui qui en était la tête? Que te voilà déserte, ô douce France. Si grand mon deuil, je voudrais n'être plus. Et des deux mains il tord sa barbe blanche, frappe sa tête, arrache ses cheveux. 100 000 francs s'empâment contre terre. Ami Roland, tu as donc rendu l'âme. Que Dieu la mette en son saint paradis. Ami Roland, comme ta vie fut brève, en l'apprenant où nous prit notre honneur. Qui t'a fait mort, fait la France mourante. J'ai si grand deuil que je voudrais mourir. Ainsi les miens ont succombé pour moi. Ah, fasse Dieu, fils de Sainte Marie, qu'avant que j'entre au défilé du Cise, mon âme soit séparée de mon corps, pour être mise à côté de leurs âmes, près de leur chair, qu'enfouie soit ma chair. Les yeux en pleurs, il arrache sa barbe. Nem s'écrie. Quelle douleur terrible!
Voit sur ses pas sa grande armée d'Arabes.
Sire empereur, dit le comte d'Anjou, votre douleur se démène trop fort. Dites plutôt qu'on cherche tous les nôtres qui gisent morts sur le champ de bataille. Sur un charnier, faites porter leurs restes. Le roi répond, sonnez de votre corps. Geoffroy d'Anjou a sonné de son corps. De par le roi, chacun met pied à terre pour retrouver les cadavres des siens. Et tous les corps sont mis dans un charnier. Au camp étaient maints évêques, chanoines, moines, abbés et prêtres tonsurés. On donne aux morts l'absoute au nom de Dieu. On fait brûler la myrrhe et les parfums. Avec amour, les corps sont encensés, puis enterrés très honorablement, et puis laissés. Que pouvait-on de plus? L'empereur veut qu'on mette à part Roland et Olivier et Turpin l'archevêque. Il fait ouvrir devant lui leurs cadavres. Les cœurs sont pris dans des tissus de soie. Les corps sont mis dans leurs blancs lits de marbre, enveloppés avec des peaux de cerf et bien lavés avec vin et piment. Le roi prescrit que Thibaut, Gébouin, Milon le comte et Othon le marquis, sur trois grands chars, emmènent les trois corps, tout recouverts d'un tapis de glaza. 8. Empereur contre émir. Le roi déjà pensait à repartir, quand apparut l'avant-garde païenne. Des premiers rangs sortent deux messagers, venant à Charles annoncer la bataille. Orgueilleux roi, te voilà en nos mains. Vois Baligan, qui après toi chevauche. Vois sur ses pas sa grande armée d'Arabes. On va savoir si tu es un vaillant. Charles le roi se prend alors la barbe. Il se souvient de son deuil et de ses pertes. Puis, sur les siens, il jette un fier regard. Et il s'écrie d'une voix haute et forte, baron français, à cheval et aux armes. L'empereur, prompt à s'armer le premier, lasse son aume, endosse son aubert, ceint aux côtés sa claire épée joyeuse, dont les feux d'or comme un soleil rayonnent, pend à son cou son écu de Gironne, brandit sa lance aiguisée à Blandonne, prend par la bride et monte tant se dure, le bon cheval qu'il conquit sous Marsune, quand il tua Malpalin de Narbonne. Et, le lançant à grands coups d'éperon, fait un galop, vu de 100 milliers d'hommes. Puis il prie Dieu et l'apôtre de Rome. Comme leur roi, s'arment les chevaliers. Quels fiers soldats, comme ils sont équipés avec chevaux et armes avenantes. Les gonfanons leur pendent sur les haumes, l'acier reluit, les vifs coursiers trépignent. Chaque homme en selle avec grâce se tient. L'empereur voit leur belle contenance, et, avisant Anselme de Mayence, Nem le duc Joserand de Provence. En tel guerrier, qui n'aurait confiance, dit-il, bien fou qui désespérerait. Si ces païens ne battent en retraite, ils paieront cher pour la mort de Roland. Ney me répond, sire, que Dieu le veuille. Ayant mandé Rabel et Guinement, Charles leur dit, Seigneur, tenez la place de mes deux pères Olivier et Roland, à l'un l'épée, à l'autre l'olifant, et chevauchez en tête de l'armée. Derrière vous 15 000 des francs, tous jouvenceaux et de nos plus vaillants, iront, suivis par autres 15 000 que guideront Gébouin et Laurent. Les Français sont 350 000 que l'empereur partage en 10 colonnes. 2 corps d'armée comptent 15 000 hommes, et 3 20 000. 1 en a 30 000.
les deux suivants en ont 40 000. Dans le neuvième, ils sont 50 000. Il est un corps qui prime tous les autres, c'est le dixième. Il comprend 100 000 hommes, aux chefs fleuris, aux barbes toutes blanches, très fiers d'allure et de très grand courage, nobles barons, excellents capitaines bardés de fer jusqu'au bout de leurs ongles. Ces vétérans forment la vieille garde qui suit partout l'empereur Charlemagne. Ils ont vêtu leurs solides haubères, ceint leurs épées, ou d'Espagne ou de France, pendu au cou leurs écus, où reluisent divers signaux qui les font reconnaître, pris au point droit le long bois de leurs lances, et enfourché leurs destriers rapides. Au milieu d'eux, non loin de Charlemagne, Geoffroy d'Anjou va portant l'oriflamme qui, pour Saint-Pierre, était nommée romaine, et en ce jour prit le nom de Montjoie. La grande armée comprend dans ses 10 corps, groupés selon le pays et la race, des Bavarois, soldats de fière mine, fermes au poste et guerroyants en braves, que l'empereur aime par-dessus tous, mais moins pourtant que ces hommes de France, les conquérants de tant de beaux royaumes. Des Allemands bien montés, bien armés, prêts à mourir plutôt que reculer. De blonds Normands, aux beaux chevaux rapides, se tenant bien sur le champ de bataille, où ils mourront mais ne se rendront pas, car il n'est point de race plus guerrière. De forts Bretons qui, gonfanons au vent, ont à cheval tout l'air de vrais barons. Des Poitevins, des enfants de l'Auvergne, aux bons chevaux et aux belles armures, de roux flamands, de solides frisons, qu'on ne verra jamais tourner le dos, des bourguignons et des lorrains, qui portent de forts épieux dont le bois est très court, et qui bientôt donneront de fiers coups, tels qu'on verra les païens confondus, s'ils ont le cœur d'affronter pareil preux. Des barons francs de haute contenance, de corps gaillards et d'âmes valeureuses, qui, au combat, feront riche besogne. Charles, debout dans le val, sur un tertre, vers l'horizon, étendant sa main droite, leur donne à tous sa bénédiction. Il crie « Montjoie, bataille, la bataille !» Sur le gazon, l'empereur se prosterne, tourne ses yeux vers le soleil levant, et dit à Dieu du plus profond du cœur, « Sois ma défense, ô Dieu, notre vrai Père, toi qui sauvas Jonas de la baleine, les 3 enfants du feu de la fournaise, et Daniel de la dent des lions qui dans la fosse allait le dévorer. Que ton amour sur moi veille aujourd'hui et fais de nous les vengeurs de Roland. » Ainsi prie-t-il. Ensuite il se relève, fait sur son front un grand signe de croix. D'un bond rapide enfourche son cheval, dont l'étrier était tenu par Nem, et, lance au poing, le corps noble et gaillard, le front serein, l'œil brillant d'assurance, fièrement il galope. De ci, de là, les clairons retentissent. Plus haut que tous, le cor de Roland sonne, et les Français, touchés, pleurent Roland. Très noblement chevauche l'empereur, sur son haubert faisant flotter sa barbe. Ses chevaliers, qui tous l'aiment, l'imitent. Ils ont passé ces grands monts, ces hauts rocs, ces veaux profonds, ces défilés horribles. Les voilà hors du ténébreux désert et engagés dans la marche d'Espagne. Ils y font halte au milieu d'une plaine. 9. Émir contre empereur. Ses éclaireurs ayant rejoint l'émir, un d'eux lui dit « Notre message est fait. Nous avons vu cet orgueilleux roi Charles. Fiers sont ces gens. Pas danger qu'il lui faille. Donc armez-vous, car la bataille est proche. » Pour les vaillants, c'est la bonne nouvelle, dit Baligant. Que tout le monde s'arme. Sonnez, clairons, annoncez la bataille. Parmi le bruit des tambours, des trompettes, l'émir revêt son haubert et son aume. Et à sa gauche, il ceint sa bonne épée. Que de joyeuse il prétend la rivale et qu'il a fait appeler précieuse. Son large écu doré lui pend au cou. Dans sa main droite est son énorme lance, dont le fer seul chargerait un mulet et dont le bois semble être une massue. Le brave émir a le corps fait au moule, le buste fort, l'enfourchure très grande, les flancs étroits, les épaules très larges, le regard clair, les cheveux tout bouclés, la mine fière et la barbe aussi blanche que les grands lys au beau jour de l'été. Il a autant de sagesse et vertu qu'en peut avoir qui suit la loi païenne. Quant au courage, il en a fait la preuve en mille endroits, sur maints champs de bataille. Dieu, quel baron s'il eût été chrétien! Si fortement il pique son cheval, que de ses flancs le sang clair a jailli. Dans son galop, il franchit un fossé qui avait bien 50 pieds de large. En voilà un qui nous défendra bien, crient les païens. Que les Français s'y frottent, bon gré, mal gré, ils y perdront la vie. Charles est un fou de n'être point parti. L'émir avait pour fils un chevalier, qui, grand et fort, montrait par son cœur fier qu'un noble sang lui coulait dans les veines. Ce vaillant preux était nommé Malprime. Sire, dit-il, chevauchons, en avant. N'allons-nous pas voir bientôt Charlemagne ? Tu le verras, car c'est un grand guerrier, dit Baligant. Et dans maintes histoires, il est parlé de lui avec honneur. Mais il n'a plus l'aide de son neveu, et contre nous, il ne pourra tenir. Mort est Roland, qui fut si bon vassal. Mort Olivier le Preux et le Courtois, mort tous ses pères les bien-aimés de Charles, morts avec eux 20 000 hommes de France. Aussi nombreux soient les gens qui lui restent, j'en fais peu cas, ils plieront comme un gant. Oui, Charles vient avec 10 corps d'armée, mon messager, le Syrien, l'a vu, et tout courant est venu m'aviser. Brave est le preux qui fait sonner le cor qu'avait Roland quand il était en vie. Brave est aussi le preux qui, près de lui, marche en faisant retentir la trompette. Tu les verras en tête de l'armée, les 2 premiers, chevauchant côte à côte. Derrière eux sont 15 000 Français, tous jouvenceaux, que Charles nomme enfants. Ils sont suivis par autres 15 000, qui fièrement frapperont sur les nôtres. Malprime alors, honorez votre fils en le laissant frapper le premier coup. Beau fils, que peut te refuser un père, dit Baligant. J'accède à ton désir. Donc, en menant Torleu, le roi de Perse, et Dapamor, le puissant roi des villes, fais le premier assaut contre les Francs. Et puisses-tu mater leur grand orgueil. Reviens, vainqueur, tu auras beau salaire. Je te promets un pan de mon royaume, tout le pays qu'avait le roi Fleury. Son fils se voit par avance investi. Merci, dit-il. Pourtant, ce qu'il attend, c'est le tombeau, non pas l'investiture. Tous les païens se sont armés en hâte, il se disait. Entendez-vous ce son qui vient de loin et au loin se prolonge? C'est l'olifant, c'est le corps de Roland. Dieu, accordez à l'émir la victoire. Que Baligant rende muet ce corps qui toujours sonne et sonne et sonne encore. L'émir chevauche à travers son armée, où sont persans, esclavons, prussiens, russes, hongrois, Thraces, nègres, avares, cananéens, maures et nubiens, gens d'Arménie et gens de Jéricho.
Au premier rang sont ceux de Butintro, pays d'où fut Judas qui vendit Dieu. Là sont aussi les géants de Malprouse, les mille senins qui ont si grosse tête, et dont l'échine est couverte de poils, rudes et longs comme la soie du porc, les Turcs, les Huns, les barbus de Valfonde, race toujours grande ennemie de Dieu, les cavaliers de Baldise la longue, les forts guerriers d'Oxian la déserte, gens dont le cuir est dur comme le fer, et leur tient lieu de Aubert et de Haume, tous mécréants, perfides et féroces. L'émir chevauche avec très fière allure. Derrière lui est son fils, vrai géant, suivi des rois, Torleu et Dapamor. Devant ses pas, Baligan fait porter le fier dragon, enseigne des païens, puis l'étendard Tervagan et Mahom, puis un portrait d'Apollon le félon. 10 mécréants, hideux cananéens, vont chevauchant autour de ces idoles. Ces sermonneurs crient d'une voix très haute: quiconque veut être aidé par nos dieux les prie et serve avec humilité. Et les païens de courber bas la tête et d'incliner leurs aumes éclatants. Par Mahomet, dit l'émir, Charlemagne est vraiment fou d'oser nous affronter quand notre armée compte 30 colonnes, dont la plus faible a 50 000 hommes. Vous trois, Torleu, Dapamor et Malprime, vous marcherez sur le front de l'armée et conduirez ces 27 colonnes. Je n'en retiens que 3, mais les meilleurs. Je les mettrai aux prises avec Charles et les barons qui lui feront cortège. Qu'ils viennent donc, qu'ils se mesurent à moi, corps contre corps, et, ces francs, je le jure, verront tomber sa tête de son buste. 10. La double approche. Fier de maintien, les Francs ont aperçu l'immense armée de l'émir Baligan, dont les soldats chevauchent en vrai preux, tambours battants et trompettes sonnant. À ce spectacle, ils crient « Mort aux païens, gloutons, soyez aujourd'hui confondus. Vive le roi, Dieu sauve Charlemagne, et que son nom nous mène à la victoire. » Les deux armées sont brillantes, superbes, ni bois ni mont entre les combattants. Rien ne les peut cacher les uns aux autres. Ils se voient bien des deux bouts de la plaine. Près de l'émir marche Orfroi de Luferne, qui des païens porte la haute enseigne. Baligan crie « Allons, ma gent païenne, chevauchez tous, courez à la bataille !» Tout retentit d'un grand cri, précieuse, et les Français répondent par « Mon joie !» L'empereur roi fait sonner ses clairons, et l'olifant qui plus que tous résonne. La belle armée, se disent les païens, « Ah, nous aurons forte et rude bataille !» Grande est la plaine et large la contrée, et de partout les haumes resplendissent, tout recouvert d'or et de pierreries, et de partout les écus étincellent, et de partout les gonfanons s'agitent, et l'on entend le son clair des trompettes et les très longs appels de l'olifant. Baligan voit chevaucher l'empereur, tout entouré de chevaliers barbus, dont les longs poils sur leur aubert s'étalent, tout blancs, ainsi qu'une neige surgelée. Voyez l'orgueil de France la louer, dit le païen à Canabeux, son frère. Comme ce Charles avec fierté chevauche, et quel grand air ont ces barons barbus. Ils frapperont de rudes coups d'épée. La mêlée va être ardente et terrible. Alors il prend fièrement les devants, et de plus loin que le jet d'un bâton, marche en avant du premier rang des siens. « Venez, crie-t-il, je vous montre la route. » Et, brandissant le long bois de sa lance, vers Charlemagne,
il entourne le fer. Charles le Grand voit l'émir, le dragon, et tout ce flot de païens dont la foule de ci, de là, inonde la contrée. Ferme, intrépide, il crie à pleine voix. « Baron français, vous êtes bon soldat. Rappelez-vous vos anciennes victoires et courez sus à ces lâches païens. Toute leur loi ne vaut pas un denier. Ils sont nombreux. Eh bien, seigneur, qu'importe. Qui veut marcher, suive son empereur. » « Ah, brave roi, répondent les Français, aucun de nous ne vous fera défaut. » Et tant s'endure, tout fier, fait quatre sauts, et l'on chevauche en dévorant l'espace. 11. La suprême bataille. Clair fut le jour, brillant fut le soleil, les deux armées se déploient magnifiques. Voilà déjà les premiers rangs aux prises. Tous les Français font jouer l'éperon, lâchent la bride à leurs chevaux courants et frappent dru de leurs lances tranchantes. Quel preux hardi que le comte Rabel, qui, par le choix du grand empereur Charles, porte en sa main l'épée qu'avait Roland. Des éperons, il pique son cheval et va frapper Torleu, le roi de Perse. Écu, aubert, rien ne part un tel coup. Le fer doré traverse le païen. Le voilà qui, sur un buisson en fleurs, s'abat meurtri, teint de sang, raide de mort. Les Français crient. Le Seigneur Dieu nous aide. Servons bien Charles, il a le droit pour lui. Fier et fougueux sous son habit de fer, s'en vient le preux que Charles a jugé digne de recevoir l'olifant de Roland. C'est Guinement. Il vise d'Apamort. La belle joute. On dirait des éclairs tant sont brillants et rapides les coups. Le bouclier où luisaient des fleurs peintes est mis en deux. Le haubert est percé. Le gonfanon du chevalier français pénètre entier dans le corps du païen. Le puissant roi n'est plus rien qu'un cadavre. Les Francs le voient, et joyeux il s'écrie. Frappez, baron, qu'aucun bras ne maudisse. Vous voyez bien que le droit est pour Charles, soldat du Christ contre la gent païenne. Voilà, voilà le jugement de Dieu. Sur un cheval tout blanc voici Malprime, qui s'est jeté au fort de la mêlée. Parmi les Francs, il frappe de grands coups et fait des morts dont il n'attend pas l'autre. Aussi l'émir, son père, s'écrie-t-il. Voyez, baron, mes amis, mes fidèles, voyez mon fils comme il court après Charles. Que de barons il fait choir sur sa route. Je ne pouvais rêver meilleur soldat. Et chevauchant, il va de son côté du fer pointu de sa lance homicide, amonceler cadavre sur cadavre. Qu'il était beau de voir ces deux armées entre-heurter leurs bataillons immenses. Que de grands coups frappe la gent païenne. Que de tronçons ou d'épées ou de lances ou de haubert ou d'écus en morceaux. Tant est le sol de cadavres jonchés que le pied glisse et l'herbe tendre et verte, du sang des corps devient tout empourpré. L'émir au sien fait un nouvel appel. Frappez, baron, frappez sur ces chrétiens. Quelle bataille! Elle est si acharnée que nul n'a vu ni verra la pareille. Les combattants, l'un à l'autre, se collent. Rien que la mort ne les peut séparer. L'émir au sien fait encore un appel. C'est pour frapper que vous êtes ici. Frappez, païens, frappez avec ardeur, et vous aurez femmes jantes et belles, et vous aurez honneur, bons fiefs et terres. Frappons, crie-t-il, faisons notre devoir. Ils frappent tant qu'ils y laissent leurs lances. Lors du fourreau, ils tirent leurs épées,
qui, par 100 000, au clair soleil reluisent. Et douloureuse, horrible est la mêlée. Ah, qui fut là vit une vraie bataille. L'empereur Charles exhorte ainsi ses francs. Vous qui avez mon amour et ma foi, seigneur baron, vous qui, par votre chef, avez livré tant et tant de batailles, conquis de terre et détrôné de roi, je vous en dois, je le sais, le salaire. Eh bien, à vous mes biens et ma personne. Vengez vos fils, vos frères, vos amis, qui, l'autre soir, à Roncevaux tombèrent. Vous le savez, le bon droit est pour moi. Oui, crient les francs, sire, vous avez droit. Ils sont 20 000 attroupés à sa suite, qui, d'une voix, lui promettent leur foi, et font serment que jamais aucun d'eux ne lui faudra, pour mort ou pour détresse. Et coups de lance et coups d'épée font rage. On lutte à force et poignante est l'angoisse. Nesme le duc s'aperçoit que Malprime court en tous sens et fait grande tuerie. Il le regarde avec un œil terrible et fond sur lui d'un indomptable élan. Il a bientôt démaillé son haubert, lui plonge au corps avec sa lance aiguë le gonfanon aux banderoles jaunes. Et là-bas, mort entre 700 cadavres. Mais Canabeu, le frère de l'émir, tirant son glaive au pommeau de cristal, est là, qui vient pour venger son neveu. Sur le cimier, il frappe le duc Nesme, tranche le haume et fend jusqu'à la chair, coiffe de mailles et calotte de fer. Rude est le coup. Nesme en est étourdi. Il va tomber. Mais Dieu lui vient en aide. Il se cramponne au cou de son cheval, et l'empereur accourt le secourir. Nesme le duc est en très grande angoisse. Le païen va frapper un second coup, quand Charles crie « Halte là, vil maraud, ton mauvais coup t'aura porté malheur. Vaillant et prompt, il brise son écu, contre le cœur lui casse son haubert, pousse la lance à travers sa poitrine et là-bas, mort. La selle reste vide. Pourtant, très grande est la douleur de Charles, qui voit le duc blessé et teint de sang. « Nesme, dit-il, chevauchez près de moi. »« Ah, dit le duc, puissais-je vivre assez pour vous payer d'un si fameux service ?» Et tous les deux, par amour et par foi, vont chevauchant l'un à côté de l'autre. 20 000 francs chevauchent à leur suite. Ils frappent ferme et jettent mort sur mort. L'émir, qui court à travers la bataille, a mis à mort le comte Guinement, le preux Laurent, le marquis Gébouin, le vieux Gérard, seigneur de Normandie, et main baron. Tous ces païens l'admirent. « La bonne épée, crie-t-il, que précieuse. Ah, nous avons un rude champion. Suce aux chrétiens. Frappez, baron, frappez. » Il fait beau voir les chevaliers arabes, ceux d'Occident et ceux du Pays basque, de leurs épieux porter des coups terribles. Mais ne craignez que les Français s'en aillent. Ils ont pourtant subi bien grand dommage. Quels deuils encore avant qu'on se sépare. Jusque au soir, quelle affreuse tuerie! Des deux côtés, les cadavres s'entassent. Païens, chrétiens, tous frappent à l'envi. Qui aurait vu les lances fracassées, perdre leur bois ou leur acier fourbi, les écuchoirs, le fer froisser le fer, les blancs auberts résonner sous les coups, les boucliers sur les haumes grincer, les chevaliers tomber ensanglantés, hurler, râler, contre terre mourir, saurait ce qu'est une grande douleur. Ô Apollon, terre vagant, Mahomet, crie Baligan, soyez-nous secourables. Je vous ferai des statues en or fin, mais sur les francs, donnez-nous l'avantage. » Arrive alors son ami, j'ai mal faim. « Ah !» lui dit-il, « nos affaires vont mal. Mort votre fils, mort aussi votre frère. C'est l'empereur, je crois, qui l'a tué. » J'ai reconnu Charles à sa grande taille. D'un vrai marquis, il a la fière mine. Ses poils sont blancs comme fleurs en avril. Alors l'émir penche sa tête sombre. Il souffre tant qu'il en pense mourir. Enfin, il dit à Jangleu d'outre-mer, « Venez ici, Jangleu, que je vous parle. Vous possédez prudence et grand savoir, et j'ai toujours suivi votre conseil. Qu'en pensez-vous? Aurons-nous la victoire? Vous êtes mort, Baligan, dit Jangleu. Nos dieux, hélas, ne vous sauveront pas. Si fier est Charles et si preux sont ces hommes. Non, je ne vis jamais tel batailleur. Faites pourtant tout ce qui reste à faire. » Alors l'émir étale fièrement sur son haubert sa longue barbe blanche dont le poil luit comme fleur d'aubépine. Quoi qu'il arrive, il entend se montrer. Dressé très haut sur son grand destrier et en bouchant une claire trompette, il sonne tant que ses païens l'entendent. Leur bataillon de tout point se rallie. Quel cri! Les uns semblent braire et hennir, d'autres vrais chiens et aboient et glapissent. Des enragés sur les Français s'élancent. Aux plus épais les rompent et les coupent, et d'un seul coup en jettent mort 7000. Le comte Augier jamais ne fut couard. Il n'est meilleur baron qui porte armure. Sitôt qu'il voit nos colonnes rompues, d'un bond rapide il court à Charlemagne et fièrement lui fait ses remontrances. Voyez ces gens comme ils tuent vos Français. Ne plaise à Dieu que vous portiez couronne si votre épée ne venge telle honte. Charles se tait et, pour toute réponse, avec fureur pique de l'éperon. Ah, de quel cœur frappe le vaillant roi! À ses côtés donne de rudes coups. Geoffroy d'Anjou qui porte la bannière, n'aime le duc et Augier le Danois. Le comte Augier est vraiment un fier preux. Il pousse droit son cheval tout fumant sur le païen qui porte le dragon. Terrasse l'homme et foule l'étendard saint que les païens révèrent. À cette vue, l'émir est hors de lui. Il a donc tort. Charlemagne a donc droit. Pour Dieu, crie Charles, aidez-moi, mes barons. Le demander, disent-ils, c'est injure. Honte sur qui ne frappe à toute force. 12. Joyeuse contre précieuse. Le jour avance et la soirée arrive. Voici l'émir et le roi en présence. Leur forte voix les fait se reconnaître. L'un crie « Montjoie » et l'autre « Précieuse ». S'entrefrappant sur leurs écus à fleurs, ils font assaut de rudes coups de lance. L'écu brisé, le haubert démaillé, désarçonné, leurs selles renversées, roi et émir, tous deux tombent par terre. Mais aussitôt debout, ils se relèvent. Et plus ardents dégainent leurs épées. Rien ne peut plus arrêter ce combat. Il doit finir par la mort d'un des deux. C'est un grand preux, certes, que Charlemagne, mais preux aussi et ne craignant personne est Baligan, l'émir de Babylone. À grands éclairs, leurs épées s'entrecroisent, et chaque écu reçoit des coups terribles. Les deux boucliers sont bientôt mis en pièces. Lors, nu à nu, ils redoublent les coups. Sur leurs haubert, sur leurs casques, ils frappent. Des haumes claires sortent des étincelles. Le combat dure. Il ne finira pas sans qu'un des deux ait avoué son tort. Le païen dit : « Charles, rentre en toi-même, sois repentant. Tu m'as tué, mon fils, et sans raison tu veux prendre mes terres. Deviens mon homme, et je te donne en fief tout ce pays jusque en Orient. » Charles répond : « Loin de moi telle honte, paix ni amour ne sont dus aux païens. Mais crois et sers le roi omnipotent. Reçois la loi que Dieu nous a donnée. Fais-toi chrétien et nous serons amis. » Tu me fais là un bien mauvais sermon, dit Baligant. Moi, me faire chrétien, plutôt mourir du tranchant de l'épée. Et le combat reprit de plus belle. L'émir était redoutablement fort. Il asséna un si terrible coup sur l'acier brun du heaume impérial qu'il le fendit et atteignit la tête. Le fer trancha des touffes de cheveux et arracha un grand lambeau de chair qui était bien large comme la main. L'os est à nu. Charlemagne chancelle, il va tomber, lui vaincu, mis à mort. Dieu le défend. Descendant près de Charles, Gabriel dit : Ô grand roi, que fais-tu ? Quand Charles entend la sainte voix de l'ange, il sort d'angoisse, il ne craint plus la mort. Il sent renaître et sa vie et ses forces, frappe l'émir avec l'épée de France, brise son aume où les pierreries brillent, lui fend le front, fait jaillir sa cervelle et met en deux jusqu'à la barbe blanche son fier visage. Il est mort, sans retour. Montjoie, crie Charles. Et, content, il remonte sur son cheval que maintient le duc Nesme. Les païens fuient. Dieu veut leur débandade, et les Français ont tout ce qu'ils demandent. Les païens fuient, le Seigneur Dieu le veut. L'armée s'empresse à leur donner la chasse. Vengez vos deuils, baron, dit Charlemagne. Assouvissez le désir de vos cœurs, car ce matin j'ai vu pleurer vos yeux. Les Français crient : Sire, cela nous va. Tous de frapper les plus grands coups qu'ils peuvent. Peu de païens échappent à la mort. 13. À Saragosse. Il fait très chaud. La poussière s'élève. Elle enveloppe et Français et païens. Ceux-ci qui fuient, ceux-là qui les poursuivent. Éperonnant à force leurs chevaux, ils sont chassés jusque à Saragosse. Sur son donjon est monté Bramimonde, avec les clercs et prêtres de sa loi. Gens mal pensants qui n'ont pas la tonsure, prêchent le faux et sont haïs de Dieu. La reine voit la déroute des siens et crie en pleurs : Au secours, Mahomet ! Puis, se rendant près du lit de Marsile : Ah, noble roi, nos hommes sont vaincus. L'émir est mort, tué à grande honte. Marsile entend, se tourne vers le mur, pleure des yeux, se voile le visage et meurt de deuil. Aussitôt les démons prennent son âme esclave du péché. Ses ennemis ou tués ou en fuite, Charles vainqueur occupe Saragosse, dont ses soldats ont abattu les portes. On ne peut plus défendre la cité, il le sait bien, et fait entrer son monde qui gîtera dans la ville conquise. Fier est le roi à la barbe chenue. Vient à ses pieds la reine Bramimonde, qui crie merci et dit qu'elle se rend. Elle remet les tours à Charlemagne, 10 grandes tours et 50 petites. Tout réussit à qui a Dieu pour soi. Le jour s'achève et la nuit est venue. La lune est claire et les étoiles flambent. L'empereur roi est maître à Saragosse. 1000 Français par son commandement, de ça, de là, courent toute la ville. Les mains armées de marteaux et de haches, ils vont fouillant mosquées et synagogues pour y briser les statues des idoles.
De leur magie, de leur sorcellerie, il ne doit plus rester aucun vestige. Qui croit en Dieu le montre par ses actes. Ainsi fait Charles. Il veut que ses évêques, après avoir dûment béni les eaux, au baptistère amènent les païens. S'il en est un qui veuille y contredire, il le fait pendre, ou brûler, ou oxyre. Plus de 100 000 ainsi sont baptisés et faits chrétiens. La reine est acceptée. Elle sera menée en douce France. C'est par amour qu'il veut la convertir. 14. Le retour à Aix par Bordeaux et Blaye. La nuit passée, le jour clair apparaît. Ayant garni les tours de Saragosse, de chevaliers qui garderont la ville, l'empereur part avec toute l'armée. Et Bramimonde est emmenée captive, mais il ne veut lui faire que du bien. Joie et fierté font battre tous les cœurs. Vainqueurs et forts, on traverse Narbonne, et puis Bordeaux, la cité de valeur, où sur l'autel du grand saint Séverin est déposé l'olifant, rempli d'or. Les pèlerins qui vont là l'y verront. En grand bateau la Gironde franchie, on va à Blaye, où l'on laisse Roland et Olivier, son noble compagnon, et l'archevêque aussi vaillant que sage. Les trois barons, clos en de blancs cercueils, sont déposés dans l'église de Blaye à Saint-Romain. Ils gisent là, les preux. Pour leur salut, les litanies sont dites. Que tous les saints et Dieu leur fassent paix. Et de rechef, à travers monts et vaux, Charles chevauche. Il chevauche si bien que jusqu'à Aix il ne s'arrête plus. Là, il descend au perron du palais. À peine est-il monté dans le palais que par message il convoque ses juges, nobles de Saxe et Bavière et Lorraine, nobles de Frise, Allemagne et Bourgogne, et Poitevins et Normands et Bretons, et ceux de France entre tous les plus sages. La haute cour va juger Ganelon. En grand bateau la Gironde franchie, on va à Blaye, où l'on laisse Roland et Olivier, son noble compagnon, et l'archevêque aussi vaillant que sage. Les trois barons, clos en de blancs cercueils, sont déposés dans l'église de Blaye à Saint-Romain. Ils gisent là, les preux. Pour leur salut, les litanies sont dites. Que tous les saints et Dieu leur fassent paix. Et de rechef, à travers monts et vaux, Charles chevauche. Il chevauche si bien que jusqu'à Aix il ne s'arrête plus. Là, il descend au perron du palais. À peine est-il monté dans le palais que par message, il convoque ses juges, nobles de Saxe et Bavière et Lorraine, nobles de Frise, Allemagne et Bourgogne, et Poitevins et Normands et Bretons, et ceux de France entre tous les plus sages. La haute cour va juger Ganelon.